Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons traiter d'un thème ce soir à partir de l'actualité. Ce n'est pas Mardi Info, mais nous avons des frères et sœurs dans le monde entier. On en a en Afrique du Sud, au Sénégal, en Norvège, en Australie et aux États-Unis aussi. Et nos frères aux États-Unis sont confrontés à un problème. C'est le problème de la violence. Nous voyons à la télé le nombre de fusillades qui est en train de grandir. Et c'est vrai que la question doit se poser à un certain moment dans la vie d'un chrétien aux États-Unis et finalement à notre niveau. Puisque nous serons peut-être appelés à répondre à ce genre de problème aussi. Mais est-ce que le chrétien doit user de violence? C'est une des grandes questions qui a toujours perturbé le monde chrétien, les enfants de Dieu, depuis un certain moment. Je dirais même, depuis même que Jésus était là, la question de la violence a été posée. Est-ce que le chrétien doit user de violence? Et bien sûr, dans le milieu chrétien, il y a eu et il y a deux camps. Il y a un camp qui dit le mal, il ne fait que grandir et lorsqu'on peut user de violence d'une manière juste pour le restreindre, il n'y a pas de mal à cela. Et du moment que la logique, c'est arrêter le mal. Et donc, il y a des gens, des chrétiens, qui soutiennent cet avis-là pour dire on peut user de violence d'une manière, il précise bien, d'une manière juste. Et d'ailleurs, certains posent certaines conditions en disant, après avoir épuisé toutes les formes d'activités non violentes pour en finir avec le mal, après avoir épuisé tout ça, on peut s'autoriser à une violence juste pour arrêter le mal. Et c'est surtout les enchaînements d'événements qui amènent certains chrétiens aussi à adopter cette position-là. Lorsque pendant plusieurs mois, pendant plusieurs jours, on apprend qu'un tel a été abattu à tel endroit, un tel autre a été abattu à tel autre endroit. Donc nous, ça amène certaines personnes à dire non, on ne va pas quand même se laisser faire ainsi. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu qu'on ne fasse rien? Il y a dans une église aux États-Unis, une sœur de 18 ans a été abattue comme ça par un délinquant et les gens disent, mais cette fille-là, elle n'avait rien fait à personne. Et puis voilà. Et c'est ainsi que dans beaucoup d'églises américaines, aujourd'hui, il y a des gardes armés. Dans beaucoup d'églises américaines, il y a des pasteurs qui ont des gardes du corps armés. Et il y a eu dernièrement même un scandale. Le garde du corps d'un de ces pasteurs-là avait tué sa femme. Et donc il y a tout ça. Bon, d'un côté, les gens disent mais non, les chrétiens n'ont pas usé de violence et on doit laisser Dieu nous défendre. Et de l'autre côté, les gens disent mais oui, mais on ne peut pas laisser les choses comme ça parce que ça devient comme une sorte de laxisme. Ça devient comme une sorte de Y a des gens qui disent, bon, les hommes chrétiens ne sont plus masculins. Voilà. Ils vont jusqu'à ce point-là. Les hommes chrétiens ne sont plus masculins. Et ce n'est pas facile, hein, à un certain moment, de prendre une position une fois pour toutes. Et nous allons donc discuter de tout cela à partir de l'Évangile. Je sais que dès qu'on lit les versets concernant cela, bon, on verra clairement que on n'a pas usé de violence, mais si on en parle, c'est parce que on ne voudrait pas non plus que nous puissions juger rapidement ceux qui usent de violence en considérant que c'est des incrédules, c'est des gens voilà, qui n'ont pas foi en Dieu. Non, il faut que nous soyons aussi indulgents. Ce n'est pas à dire que nous puissions approuver l'usage de la violence, mais c'est reconnaître que la difficulté est grande, surtout pour un Américain. Nous allons expliquer la manière dont les États-Unis ont été constitués. Les États-Unis, comme on entend, c'est des États qui se sont unis. Voilà, donc c'est des États-Unis. Donc ce n'est pas comme la plupart de nos pays qui ont été une fois pour tout un pays comme ça. Après, les frontières se sont toujours ont toujours changé, se sont adaptés, mais il y a toujours eu un pays comme ça d'emblée. Alors que les États-Unis, ce sont des États qui se sont unis. Maintenant, ce n'est pas que les États. Vous savez que les États-Unis, c'est des Européens qui sont partis là-bas. Ils faisaient des conquêtes de terres. Et au début, quand il y a conquête d'un territoire, il n'y avait pas de gouvernement. Il n'y avait pas de police nationale ou de police locale. Donc, vous prenez des terres. Maintenant, vous vous entendez en groupe. Vous dites, bon, pour nous protéger, on va faire de telle manière et de telle autre manière. Donc, on va créer un ensemble, un corps qui va veiller la nuit, un corps qui va veiller la journée. C'est ainsi que, jusqu'à aujourd'hui, certains corps chez nous ici qui sont nommés, comme les procureurs par exemple, aux États-Unis, ils sont votés. C'est lié à l'histoire des États-Unis. Donc les gens, ils prenaient un bout de terrain et ils faisaient des choses, ils prenaient des parcelles et ils s'entendaient qui va être le procureur, qui va être le juge à l'époque, qui va être le shérif. Donc ils étaient votés. Donc, et c'est ainsi la protection était en quelque sorte individuel. Donc, et à un certain moment, quand le shérif était dépassé, il pouvait faire appel à tous les autres membres de la population pour une action. Donc, les gens, en quelque sorte, se protégeaient eux-mêmes. Ils ne sont pas nés comme nous, nous vivons directement dans un pays, tu es dans un pays où il y a déjà une loi, une police, ainsi de suite. Donc, les États-Unis ne se sont pas constitués comme ça. Quand ils se constituaient, donc, c'était par réunion, rassemblement, on décidait qui était le shérif, qui était le juge, et au cas où bon, le shérif était dépassé, chacun même intervenait. Donc les États-Unis se sont constitués ainsi, selon la règle que chacun devait pouvoir se protéger, parce que ça ne s'est pas créé, ils ne se sont pas retrouvés directement avec une police. Donc, alors que, par exemple, en Europe, ici, il y avait ce qu'on appelait les seigneurs, même au Moyen-Âge, des gens qui avaient un certain pouvoir militaire et qui protégeaient les faibles et en échange, les faibles leur devaient soumission dans certains domaines. Donc, eux, c'est des gens d'une manière individuelle qui prennent des bouts de terrain et après, ils s'entendent sur qui va être le shérif, qui va être... Et c'est comme ça qu'il y a la culture de l'arme aux États-Unis. Parce que beaucoup de chrétiens pourraient s'interroger sur le fait que le premier pays chrétien au monde soit aussi le premier pays armé, quoi. Il faut connaître l'histoire, parce que on peut juger les gens rapidement et facilement, et c'est bien de connaître l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'on va approuver le mal, on va cautionner le mal. Tout simplement, on va mieux comprendre les choses et savoir comment agir pour la solution. Donc voilà le contexte américain. Ce qui fait que aux États-Unis, faire passer la loi selon laquelle personne ne devait avoir possédé une arme, sauf si c'est nécessaire pour son travail, ben cette loi ne peut pas passer pour le moment parce que les gens ont cette éducation-là de l'autodéfense. Donc chacun veut conserver sa capacité personnelle à se défendre. Donc ce n'est pas dans le vide comme ça qu'il y a cette culture de l'arme, cette culture de la violence. Il y a le côté, chacun veut garder sa capacité à s'autodéfendre. Et les événements aussi encouragent cela. Parce que quand on se rend compte qu'un tel a été descendu facilement, on se dit, mais s'il avait son arme, il pouvait se défendre. Et donc c'est pourquoi une telle loi qui sortirait de la circulation des humains normaux les armes, elle n'est pas prête à passer aux États-Unis. Parce que les gens sont vraiment emprunts, voilà, enracinés dans la culture de l'autodéfense. Parce qu'on considère que l'ennemi est à côté. Il peut venir à côté. C'est ça la réalité. Maintenant, nous revenons toujours à la grande question. Est-ce que le chrétien doit céder à cela? Nous lisons donc dans Matthieu 5. Matthieu 5. Au verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 mille, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voilà. Donc, ce passage est clair. Vous avez entendu qu'il a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Donc, si quelqu'un veut te gifler, te gifle à la joue gauche, tu lui donnes aussi la joue droite. Voilà, bien-aimé, ce que nous dit les Écritures. Nous lisons aussi dans Romains 12. Romains 12, il est écrit à partir du verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Donc on voit que le Seigneur désapprouve la vengeance, désapprouve l'usage de la violence par le chrétien, bien sûr, donc par le chrétien, pour vouloir faire régner la justice ou la vérité. Et nous ne disons pas à travers cela que le Seigneur désapprouve qu'on emprisonne les gens ou qu'on les punisse physiquement à cause des torts qu'ils commettent. Nous lisons pour cela Romains 13, on est à côté, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, donc l'autorité, étant au service de Dieu, pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Donc nous voyons que le Seigneur reconnaît le fait qu'il y ait des autorités qui punissent, qui sanctionnent, qui frappent même physiquement les gens à cause de la désobéissance aux lois du pays. Mais est-ce que le Seigneur recommande cela aux chrétiens ? Non. Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce sujet. Question ? Oui. Le micro ?
J'en ai une parce que je me souviens que ça fait déjà un moment. Qu'est-ce que tu dis ? Ah ouais, d'accord. Je me souviens d'une histoire où c'était des Allemands, c'était une communauté allemande de chrétiens qui était partie en Amérique du Sud, du côté, je pense, du Brésil. Et puis ils se sont fait attaquer par des gens qui étaient méchants, qui étaient dans les alentours, qui venaient, qui violaient leurs femmes. Et puis ils venaient régulièrement, et tout, à chaque fois, ils violaient les femmes. Qu'un jour, il y a quelqu'un qui arrive dans la communauté, qui venait du même pays, et puis qui s'aperçoit de ça, il dit, c'est pas possible. Donc il a été chercher des armes, et puis quand les autres sont revenus pour encore violer les femmes, ils se sont défendus avec leurs fusils. Et à partir de ce moment-là, ils ont été tranquilles. Alors ça voudrait dire que il faut laisser continuer nos familles à se faire violer à ce moment-là ?
Voilà, c'est la question, oui, donc c'est très bien. Oui, question.
Ma question, moi, c'est par rapport, en fait, aux États-Unis, ils ont la peine de mort dans certains États. Elle est encore en vigueur dans certains États. Et donc un pays qui se dit donc chrétien, donc pour moi, la peine de mort, ça me pose un problème parce que même si on emprisonne les gens parce qu'ils ont fait quelque chose, on les juge et on les emprisonne, on les condamne, mais après prendre leur vie. À moins que ce soit un accident, mais prendre leur vie comme ça, pour moi, ça me dérange parce que c'est se mettre à la place de Dieu. Donc,
Ah non, mais on vient de lire Romains 13, le Seigneur comprend ça. Dans Romains 13, il dit, au verset 4, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance. Donc, c'est dit bien que l'autorité porte l'épée. Donc, l'épée, ça sert à tuer parfois, donc pour montrer la justice de Dieu. Donc, la peine de mort n'est pas anti-biblique. Oui.
Merci. Moi, je voudrais savoir, dans un contexte, par exemple, comme une agression, admettons dans la rue, une agression, il y a un couple de chrétiens, une des deux, la femme, par exemple, se fait agresser. J'imagine, enfin, Je pense que l'homme peut réagir pour défendre son épouse, enfin son épouse ou une sœur ou n'importe qui d'autre en fait. Même le cas d'agression, de voir une personne dans la rue qui se fait agresser et que bah, il faut intervenir pour sauver cette personne. Donc j'imagine que là aussi on peut. Enfin, moi, j'imagine que dans des situations comme celle-ci, à partir du moment où il y a de se défendre ou de défendre une autre personne, il y a probablement possibilité d'intervenir physiquement.
Comment dire D'accord, on vous a écouté. On continue.
Oui, moi je
voulais. On va revenir. Oui.
Moi je voulais savoir par rapport au harcèlement moral que les gens peuvent subir au travail, par exemple, puisqu'il faut être soumis aux autorités. Et il y a une autorité qui fait subir du harcèlement moral à des subalternes.
Qu'est-ce qu'on doit faire?
Ben oui.
Oui, oui, mais on prie pour la personne, on dit bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous persécutent. Donc on prie pour eux et on les bénit.
Oui. On pourrait vous dire sur le cas. Oui, mais il faut le dénoncer aussi quand même.
Il faut le dénoncer quand on sent qu'il faut le dénoncer. Mais nous, notre première réaction, ça doit être de les bénir et de les aimer. Maintenant, quand une situation nous oblige à témoigner, je pense qu'on va dire la vérité. Voilà. Mais que ça soit de notre propre désir d'aller dénoncer, je pense que ce n'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de bénir et d'aimer. Maintenant, il peut se faire que quelqu'un d'autre porte plainte et que nous sommes assignés à témoigner et nous disons la vérité. Voilà.
Donc, moi, c'était pour répondre au frère de tout à l'heure, donc les gens qui venaient pour violer les femmes. Moi, dans ce cas-là, bah, c'est pas qu'on va les laisser faire, mais il suffit de prier pour qu'ils ne reviennent plus, ils ne vont plus revenir.
Voilà, ok, déjà une réponse là.
Après, il y avait.
Oui, oui. Le frère répond, le problème, c'est qu'il priait. Oui, ok.
T'as dit que la peine de mort, c'était pas anti-biblique.
C'est pas anti-biblique. Pourquoi ça serait anti-biblique?
Bah, parce que Dieu ne veut pas. Non mais
vas-y.
Non mais par exemple, s'il y a quelqu'un qui fait un meurtre, là on vient de dire qu'on ne faut pas.
Ah oui, ça c'est pas un meurtre, ça c'est peine de mort, c'est pas un meurtre. C'est,
oui.
Donc on le sanctionne.
Oui mais c'est.
C'est pas un meurtre.
Oui mais.
C'est tué, mais c'est pas un meurtre.
Oui mais après il est mort.
Oui mais c'est pas un meurtre.
Non mais
c'est,
après il peut plus être sauvé.
Oui mais non, qui t'a dit qu'il peut pas être sauvé?
Bah comment tu veux qu'il soit sauvé quand il est mort?
Oh mais non, il s'est converti avant de mourir. Après, quand il meurt, il va au ciel.
Oui, mais...
Voilà.
Mais David, quand c'est peine de mort, on est peine de mort. Enfin, normalement, on meurt.
J'ai pas compris.
Avant, on peut pas, normalement. Enfin, eux, là-bas, quand ils font la peine de mort.
Tu as 6 ans, parfois, avant que tu meurs.
Ah bon?
6 ans, 10 ans. Et pendant tout ce temps-là, tu peux te convertir et aller plus vite au ciel que nous.
Ah, c'est pas une semaine?
Non, c'est pas une semaine, pas du tout. Ah, ok. Et mais ça, même si c'était une semaine, tu les as quand même, c'est 7 jours-là. Oui, oui. Donc, on va revenir sur Michel et qui a parlé de... Voilà, et Chantal. Ouais, voilà. Oui, vas-y, Franck. Oui,
pour revenir, en fait, à l'exemple donc des femmes qui étaient agressées, c'était une communauté. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se dire que la communauté s'est dotée d'une... d'un gouvernement qui s'est défendu au travers d'une autorité.
C'est une possibilité, effectivement. On peut considérer que la communauté s'est dotée d'un gouvernement qui a agi en tant que gouvernement. Voilà, donc c'est une possibilité. Mais maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? Souvent, les prises de position des chrétiens ont été faites, établies en fonction des événements vécus. Or, nos prises de position doivent être liées à la parole de Dieu. Parce que les gens disent, mais moi, pasteur, quand viendra la persécution? Mais quand on me coupera les doigts, je ne crois pas que je resterai chrétien, je renierai le Seigneur. Voilà, donc on peut supposer, mais tiens, ça sera très dur, ça sera ceci, cela, je ne pourrai pas, voilà, si on tape ma femme à côté. Moi, je pense qu'on ne devrait pas réfléchir ainsi en disant, mais si il arrivait qu'on a agressé ta femme, tu vas faire quoi? Moi, je crois que nous devons vivre dans la confiance dans le Seigneur chaque jour. Et si de telles choses arrivent, le Seigneur nous donnera à faire ce qu'il faut en ce moment-là. Voilà, c'est ce que moi je pense. Donc, que l'on calcule ça à l'avance. Et d'où ça nous autorise à porter une arme dans le cas d'on ne sait jamais, c'est ça qui fait qu'aux États-Unis, on en est à ce niveau-là. C'est-à-dire que les églises, maintenant, ont déjà des armes. On ne sait jamais, il y a des voyous qui viennent parfois faire des mauvaises choses dans les cultes. Donc, c'est parce qu'on se dit, mais si telle chose arrivait, qu'est-ce qu'on ferait? Et on trouve déjà la solution personnelle. Alors que nous devions vivre dans la confiance et quand un événement arrive, Dieu nous donnera la solution en ce moment-là. Donc, moi, c'est ce que je donnerai comme réponse dans les si. Parce que je sais que si on laisse les micros à tout le monde, il y aura beaucoup de si. Mais si, il y a telle chose, si, il y a telle chose, si. Mais moi, je pense qu'on ne devait pas vivre dans les si. Nous devons vivre chaque jour dans la confiance. Maintenant, il y a des événements réels, comme vient de citer Michel. C'est arrivé, mais moi, je lui dis, c'était aussi le cas des Quakers. Je crois qu'il doit connaître aux États-Unis les premiers Européens qui sont arrivés là-bas. Donc, il y en a qui qu'on les appelait des Quakers. Donc, des gens qui étaient vraiment anti-violence. Et c'est des gens qui ont réussi à s'établir dans un milieu où il y avait les Indiens. Et les Indiens en ont tué un certain nombre au début. Mais par leur persévérance à la non-violence, eh bien, les Indiens ont lâché prise et ils ne les ont plus menacés. Je me souviens même, il y a une histoire où ils étaient venus avec les armes et ils étaient en plein culte. Et ils ont regardé, ils n'ont pas bougé. Ils ont regardé les Indiens bien armés, voulant les tuer tous. Ils n'ont pas bougé. Et le Seigneur a fini par intervenir à la fin. Donc, c'est... Mais pourtant, il y en a eu d'autres qui ont été tués. Donc, c'est... Moi, je pense que même s'il y a des événements difficiles, c'est pourquoi on fait le débat. Parce que ce que nous ne voulons pas, c'est que facilement on dise « Ah, les Américains exagèrent. » Ah, mais non, il faut comprendre aussi le contexte. Donc, comme là, l'exemple qui nous est cité de cette communauté allemande, c'est des cas très difficiles. On ne peut pas facilement dire « Ah, mais ils ont cédé, ils ont péché. » Non, il faut vraiment que nous puissions nous mettre à leur place. Et bon, ça peut faire qu'en nous mettant leur place, les désapprouver, mais on peut aussi, tiens, comprendre, recevoir une révélation comme Franck vient de dire, mais ils ont réagi en gouvernement humain, voilà, comme Dieu autorise le gouvernement humain à protéger son peuple et des assaillants. Donc c'est possible, mais moi, pour répondre à ça, je dirais, nous ne pouvons pas prendre des positions par rapport aux événements. Ça doit être par rapport à la parole. Maintenant, les événements peuvent arriver et nous faire faire des choses. On ne sait pas ce que ça peut nous faire faire, mais les événements peuvent nous faire faire des choses. Et parfois, l'Esprit de Dieu nous fait faire des choses, même user d'une certaine violence, mais c'est les événements. Ce n'est pas nous qui avons planifié ça ou adopté une position par rapport à ça. Oui, Franck.
Oui, en fait, moi, j'ai un exemple, justement, qui s'est passé en Afrique du Sud, où justement, qui me fait penser que les armes, c'est très mauvais. C'était un ancien responsable d'une cellule de maison, d'ailleurs, qui était chef d'entreprise et qui aimait les armes, puisque là-bas, on pouvait en avoir comme on voulait. Et un jour, il a pété un plomb, parce qu'il a eu un gros problème, il était homme d'affaires. Et il a tué son fils, il a blessé son deuxième, il a blessé sa femme et s'est suicidé. Et moi, je me dis, en fin de compte, s'il n'avait pas eu d'armes à la maison, il a répété son plomb, mais ce ne serait pas arrivé là. Quoi.
Ce serait cogné la tête sur un mur, tout.
Enfin oui, parce que ça peut arriver qu'on peut avoir des gros problèmes,
oui.
Mais je pense que la facilité d'avoir juste une arme à côté, c'est aussi quelque chose qui est très dangereux.
D'ailleurs, c'est ce qui explique le nombre de fusillades aux États-Unis, le nombre de meurtres aux États-Unis. Je pense que certains ont déjà regardé les enquêtes impossibles. Donc, combien de maris n'éliminent-ils pas leurs femmes pour prendre l'assurance vie? Donc aux États-Unis, les meurtres sont prolifiques parce que les armes sont aussi à côté. Les armes sont aussi à côté. Et moi, je voudrais poser une question. Est-ce que le nombre d'armes qu'il y a aux États-Unis, est-ce que ça a arrêté la criminalité? Non. ça n'a pas arrêté la criminalité. Est-ce que ça a arrêté les méfaits, les hold-up, les cambriolages, les attaques, les viols? Pas du tout. Donc cette logique-là de dire j'ai une arme, je peux me défendre en cas de... Ça n'a pas arrêté la criminalité. Et au contraire, elle est galopante aujourd'hui au point où on fait le débat aujourd'hui. On n'en avait jamais parlé, mais ça ne fait qu'augmenter. Et il y a même une église qui vient de racheter les armes de ses membres, donc qui a fait une action et dit donc nous rachetons toutes les armes des frères et sœurs qui sont ici à l'église. Ceux qui comprennent que nous sommes dans une mauvaise phase, amenez vos armes. Si vous regrettez d'avoir investi beaucoup dans ces armes-là, nous allons les racheter. Et ils ont montré ça à la télé. Une église a racheté beaucoup, donc toutes les armes des gens qui voulaient bien rendre leurs armes. C'est une réalité. Et Jésus nous l'a résumé en disant « Qui tue par l'épée mourra par l'épée ». Ça veut dire que la violence attire la violence. Et on a cette même phrase aussi dans les guerres fratricides qu'il y a eu entre le camp de Saül et le camp des amis de David. À un moment, un a dit, mais tu sais, le sang appelle le sang. Quand tu vas les tuer pour te venger, il y aura encore une autre vengeance. Et on connaît un pays spécialisé dans la vengeance, la Corse. Comment des familles entières étaient éliminées à chaque fois, puisque la vengeance ne finit jamais. Donc un enfant peut naître aujourd'hui, 20 ans après, on lui explique comment son père avait été tué, son oncle avait été tué, automatiquement, il n'a même pas vécu ça. Ça s'est passé 20 ans avant sa naissance, automatiquement il y a quelque chose qui entre en lui et il commence à planifier comment se venger. Donc le sang appelle le sang, la méthode violente n'est pas une méthode qui a résolu les problèmes sur Terre. Les guerres n'ont pas arrêté les guerres. Il y a eu un moment, un adage qui veut la paix, prépare la guerre. Mais oui, mais malgré ça, il n'y a pas toujours de paix, puisque le budget des ministères, de l'armée, du monde entier ont augmenté, mais il n'y a pas toujours de paix. Donc c'est faux que la guerre produit la paix, c'est faux. On est en train de le constater, il y a toujours des guerres, les guerres continuent parce qu'il y a le mal. Donc croire que la violence peut arrêter la violence, c'est une erreur biblique, puisque la Bible nous dit le sang appelle le sang et qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ça veut dire que la violence attire la violence. On ne peut pas croire que Satan puisse se freiner lui-même. Donc le mal ne peut pas se freiner tout seul. C'est le bien qui peut freiner le mal. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans Romains 12. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Donc seul le bien peut arrêter le mal. Mais sinon, le mal va attirer le mal et ça sera sans fin. Donc moi, je pense que nos bien-aimés américains, à travers ce qui se passe aujourd'hui, les chrétiens doivent s'humilier pour dire on a échoué dans notre logique de croire que l'autodéfense était quelque chose de bien. Préparer l'autodéfense était quelque chose de bien. L'autodéfense peut venir instinctivement, instantanément, comme nous venons de le dire. Donc, quelqu'un vous lance quelque chose, vous pouvez esquiver, vous pouvez parer à cela. Ça peut venir instantanément, mais préparer l'autodéfense, considérer qu'on puisse être notre propre protecteur, c'est vraiment, en tant que chrétien, sortir de la logique que Dieu est notre bouclier, notre abri, notre refuge, notre protection. Donc il est écrit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Donc commencez à planifier notre protection, planifier l'autodéfense, c'est commencer à perdre la foi petit à petit. Et nous remarquons une chose chez nos bien-aimés américains, c'est quoi? C'est qu'en matière d'argent, ils ont le même problème. Donc ils organisent toutes sortes de cérémonies pour demander l'argent aux gens. Donc ça va, donc c'est le même problème de foi qui se manifeste. Que ce soit l'autodéfense, que ce soit préparer l'autodéfense, que ce soit la quête organisée des fonds, ça montre qu'il y a une diminution dans la foi. Il y a une diminution dans la foi. C'est vrai que beaucoup vont dire, mais oui, mais c'est Dieu qui va m'aider en m'utilisant avec mon arme. Non, Dieu n'a pas, le Seigneur n'a pas dit cela. Le Seigneur Jésus ne s'est jamais protégé en usant de violence. Il ne s'est jamais protégé. Pourtant, il a failli être précipité une fois. À un moment, on est venu l'arrêter. Il n'a jamais... Quelqu'un dira, mais oui, mais là, il fallait qu'il soit arrêté. D'accord, mais lui, il n'a jamais réagi de sorte à vouloir se protéger. Même au moment où il ne devait pas arrêter, il ne s'est jamais protégé. Il n'a jamais eu de garde du corps. Il n'a jamais planifié une quelconque autodéfense. Et le couteau que Dom Pierre a usé pour couper l'oreille de ce soldat-là, c'était des armes que Jésus a demandé qu'ils prennent parce qu'il fallait donner l'impression qu'ils étaient des bandits afin que la prophétie s'accomplisse. Donc il a été au milieu des bandits. Donc il a dit, mais si quelqu'un a, si vous n'avez pas de couteau, enchaînez-en deux. Enchaînez-en si vous n'avez pas de bourse. Prenez-en, il faut qu'on donne l'impression que nous sommes des bandits parce que la prophétie doit s'accomplir. Mais ce n'était pas fait pour se défendre, pour être utilisé. Et c'est cela. Jésus a réprouvé Pierre lorsque celui-ci a coupé l'oreille de cet homme-là. Donc je crois que nos bien-aimés, humblement, nous leur disons qu'ils sont dans l'erreur. Et que ce n'est pas parce que cette tradition-là est vieille de 400 ans qu'ils doivent continuer avec cette tradition de l'autodéfense planifiée et de la violence. Je crois que les chrétiens doivent s'humilier pour dire nos prédécesseurs, nos aînés se sont trompés. Voilà où on en arrive. Parce que Jésus nous dit dans Matthieu 5, on ne l'a pas lu ce verset-là, il dit que votre justice soit supérieure à celle des pharisiens. Aujourd'hui, il y a des païens même qui reconnaissent que la planification de l'autodéfense conduit forcément à l'attaque. On planifie l'autodéfense, mais on finit par attaquer. Comme le responsable de cellule dont Franck vient de parler, ben, c'était pour l'autodéfense probablement, mais il a fini par utiliser ça pour attaquer. Oui, Mireille.
En fait, ça montre quelque chose. Les chrétiens qui ont débarqué aux États-Unis au départ, c'est des gens qui venaient de l'Europe, hein, qui sont partis par la foi et puis aussi poussés par la persécution. Donc, ils ont eu quand même une certaine foi pour aller sur un territoire inconnu, etc. Et en fait, ça montre que la prospérité dans laquelle ils vivent maintenant, cette prospérité qui s'est développé année après année, centaines d'années après centaines d'années, les a amenés en définitive à mourir dans la foi. Donc ça montre une chose, c'est que quand on est dans une une soi-disant paix ou prospérité, en définitive, c'est un mal pour nous, parce que ça nous amène à perdre la foi et nous accrocher à nos biens ou nos capacités personnelles et non plus au Seigneur, quoi. Enfin, moi, c'est la réflexion que ça me...
Oui, on ne peut pas refuser la prospérité, mais on dira que la prospérité, elle est dangereuse. Nous devons, quand elle vient, nous tenir sur nos gardes. Donc c'est une réalité parce qu'effectivement, les Américains aujourd'hui sont devenus, je parle des chrétiens, esclaves du matériel. Et ça fait perdre la foi puisqu'on établit toutes sortes de systèmes pour gagner du matériel alors que le Seigneur nous demande de croire en lui, de travailler pour être utile dans la société, mais de croire en lui concernant le fait de voir nos besoins être subvenus, quoi. Donc on doit croire en lui. Maintenant, on travaille pour être utile et pour ne pas être paresseux, mais on doit croire en lui par rapport au fait de manger et de boire et se vêtir. Mais il y a aussi... ce n'est pas que la prospérité, c'est vraiment comme on l'a expliqué, que dès le départ, il y a eu ce système-là d'autoprotection collective qui a fait que Après, chacun avait son arme. Donc, je pense que chacun de nous a déjà vu des films de western, quoi. Voilà. Donc, c'est chacun a son arme, même s'il y a une protection collective, mais chacun a son arme parce qu'il y avait même des duels. Donc, tu me cherches des problèmes, on règle ça au revolver. Et malheureusement, les chrétiens devraient résister depuis cette époque-là. Je crois que les chrétiens, depuis cette époque-là, il y a une minorité qui a résisté, comme les Quakers, mais il y a la majorité chrétienne qui a considéré que, bon, il faut être pragmatique. La réalité est là, il y a des voleurs, il y a des tueurs, donc il faut bien être capable de défendre sa famille. Voilà. Or, la Bible nous montre bien que seul Dieu peut réellement garder une ville. On se souvient de Psaume 127. Si Dieu ne garde une ville, ceux qui la gardent en vain. Si Dieu ne garde une famille, ceux qui la gardent, gardent en vain. Donc on doit vraiment faire confiance en Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que nous connaîtrons des situations où humainement nous devrions nous venger ou réagir physiquement. Mais la Bible nous exhorte à rester dans la paix et dans l'assurance en Dieu. Et parfois, ça peut nous faire pleurer. Parfois, ça peut nous faire passer comme des poules mouillées. Mais ça fait partie de la parole de Dieu. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. Parce que aujourd'hui, il y a des églises. Moi, je n'appelle pas des églises. Il y a des mouvements américains qui sont en train de préconiser des séances. De combat libre. Et je peux vous dire que le combat libre, c'est plus dur que toutes sortes de sports de combat, puisque comme vous l'entendez, ça veut dire combat libre, free fight. Donc, c'est, tu utilises tous les coups. Voilà. Alors que tous les autres sports de combat ont des règles, ont des limites. Dans le combat libre, il n'y a pratiquement pas de règles. Il y en a quand même, mais il n'y a pratiquement pas. Et donc, c'est des mouvements qui se disent chrétiens, qui sont en train d'initier les membres des églises à faire du combat libre pour savoir se défendre. Mais nous voyons, ça ne règle rien du tout. Et comme l'exemple nous a été donné, ça va servir finalement à attaquer au lieu de se défendre. Parce que nous sortons carrément de la parole. Et qu'est-ce qu'on dira? Quelle est maintenant la différence entre le chrétien et le monde? Vous savez, il y a une différence entre le chrétien et le monde. Et cette différence tient dans certains domaines beaucoup plus clairement que dans d'autres. Concernant la couleur de peau, la taille, on ne verra pas de différence. Mais il y a des domaines comme le domaine de l'argent. C'est un domaine crucial où la différence il y a entre le chrétien et le païen. Le chrétien fait confiance en Dieu, le païen il tremble. C'est des domaines très importants. Le domaine aussi de la violence. Le païen trouve absurde qu'on ne puisse pas se défendre, mais le chrétien, on lui dit, mais non, laisse Dieu te défendre. Ça fait partie des grosses différences. C'est-à-dire, si on annule ça, le divorce, la même chose. Donc le païen, pour lui, c'est normal, on s'entend, puis on divorce. Mais le chrétien dit, je préfère souffrir, mais rester dans l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est des domaines où le païen n'arrive pas à rester constant. C'est là où le chrétien marque la différence. Et là, nos frères sont en train vraiment de... Ils sont sortis depuis 400 ans. Maintenant, on espère qu'ils vont revenir à la parole à travers tout ce qui se passe aujourd'hui. Quand j'ai dit nos frères, ce n'est pas tous les Américains. Il y a la majorité, mais il y a une minorité qui a tenu bon, mais notre souhait, c'est que la majorité des Américains chrétiens aujourd'hui puissent reconnaître que cette voie-là de l'autodéfense planifiée, c'est une voie qui amène à l'échec total. Donc et qui nous amène à sortir de la parole. Voilà, nous prenons le... Oui.
Si on voit une situation où ce que quelqu'un est en train de faire du mal à quelqu'un plus faible et nous, on voudrait intervenir entre les deux et on le fait, mais après ça, on ne va pas rendre des coups, mais on va essayer de protéger le plus faible. Ça va? On peut faire ça?
Oui, ça peut arriver. Hein, ça peut arriver.
On va peut-être avoir l'air comme nous autres, on est dans cette...
Non, on sépare les gens, on sépare.
Donc on peut faire ça.
Oui, on peut être poussé à séparer les gens, oui.
Okay.
Mais au risque que nous-mêmes aussi, on voilà, dans ce cadre-là, voilà.
Ben, tu trouves, en tant que chrétien, si on voit quelque chose d'injuste comme un plus fort sur un plus faible, ça serait comme naturel de venir intervenir, non?
Oui, mais Dieu lui-même devrait intervenir aussi dans ce cas-là.
Ben, peut-être que Dieu nous utilise.
Oui, mais c'est ça. Mais on n'est pas partout. Là, on n'est pas.
Non, mais hey, si on est témoin de quelque chose.
Non, c'est pour dire qu'il ne faut pas faire de ça un truc automatique. Il faut quand même que ça soit conduit par le Saint-Esprit. Voilà, il ne faut pas faire de ça comme un échec au cas où on ne serait pas intervenu.
Mm.
Voilà. Parce que certains disent, ah oui, je suis chrétien, j'ai vu ça, je n'ai rien dit. Non, Dieu ne nous demande pas de régler le problème de l'humanité. Mais il peut nous conduire de manifester sa position dans une situation donnée. Donc là, il faut être conduit par l'Esprit et non par une certaine obligation qui nous dit, il faut que tu es chrétien, tu dois agir. Non. Peut-être que celui qui est en train de subir est en train de récolter ce qu'il a semé.
Mm-hmm.
Donc tu vas aller empêcher le jugement de Dieu. Mm-hmm. Voilà. Donc il y a tout ça qui est en compte. Donc nous devons être conduits par l'Esprit. Voilà. Oui, Franck.
Là, on a parlé à titre personnel, mais aussi à titre, on va dire, des gouvernements, parce que quand même, les États-Unis, ils ont fait aussi la guerre. Il y avait l'axe du mal, etc. Et c'est vrai que quand on voyait les reportages à l'époque de Bush, l'Église des États-Unis était fortement mise en cause par rapport à cette guerre. Et même quand on interviewait les chrétiens sur place, pour eux, c'était une guerre, on va dire, une guerre sainte.
Logique, voilà.
Voulue de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Est-ce que Dieu veut...
Moi, je ne crois pas à ça. C'est vraiment... C'est bien de citer ça. Ça nous montre les conséquences des petites déviations. Ça commence par la logique, savoir s'autodéfendre, planifier l'autodéfense, et ça en arrive à l'attaque, parce que là, c'est plus... Donc à l'attaque, on dit, une attaque d'État à État, soutenue par des chrétiens. Or, les chrétiens, maintenant, que penseront les musulmans qui sont attaqués du christianisme ? Que le christianisme soutient une attaque physique sur eux. Non, au contraire, en ce moment-là, nous les chrétiens, nous devons rester dans un discours d'amour pour les musulmans et que les musulmans voient la différence entre l'américain chrétien et l'américain païen. Et ces églises-là, moi je me pose la question si c'est des vraies églises. Je crois que les gens qui dirigent ces églises, c'est des infiltrés de l'ennemi pour diriger l'église vers une fausse pratique de la foi. Donc normalement, nous en ce moment-là, on doit prier pour que ce soit les Américains qui se sont fait tuer qui se sont menacés par le terrorisme, que ce soit les musulmans, que tous se convertissent. Parce que s'ils se convertissent tous, ben ils auront la paix du Seigneur. Ils n'auront pas à se craindre les uns les autres. C'est ce que nous, on doit faire, et non pas commencer à soutenir une prétendue guerre sainte. Non, il n'y a pas de guerre sainte. La guerre, c'est méchant, ça tue, ça blesse, ça viole, ça vole, c'est méchant, c'est pas bon. Oui, frère. Donc c'est vraiment les conséquences de cette logique de violence. Oui.
Oui, je voulais revenir sur le cas d'Israël. Je ne sais plus chronologiquement quand est-ce que ça s'est passé, quand est-ce que ça s'est produit, mais quand Israël a fait l'attaque préventive sur les nations arabes, comment est-ce qu'on peut considérer ça? Est-ce que c'était une faute d'Israël ou est-ce qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit?
Ah non, nous ne considérons pas Israël comme étant le gouvernement israélien comme conduit par Dieu. Israël est un État et il réagit en État. Nous ne considérons pas Israël comme une église. Donc Israël, mm-hmm. C'est pas une église. L'État juif n'est pas une église. C'est un gouvernement humain, comme tous les autres gouvernements. Et comme tous les autres gouvernements, Dieu peut intervenir, mais on ne peut pas dire que à 100% c'est Dieu qui les conduit dans leurs décisions, pas du tout, quoi. Donc pour un événement quelconque, Dieu peut intervenir, mais on ne peut pas dire que c'est Dieu qui les conduit dans toute décision. Donc oui. là, mais maintenant, quand on dit que c'est, bon, maintenant je reviens sur le plan humain, quand on dit que guerre préventive, c'était en 67, oui, mais c'était c'est guerre préventive parce que c'est eux les premiers à bombarder, mais il y avait déjà des troupes égyptiennes déjà qui s'étaient rapprochées. Il y avait le discours de Nasser qui annonçait une guerre imminente. Donc, il y avait déjà cette menace-là, comme quoi on va attaquer les Juifs et on va les envoyer dans la mer Méditerranée. Et ils avaient un espion, le beau-frère de Nasser. Et le beau-frère de Nasser a expliqué à l'état-major israélien quand est-ce que les Égyptiens comptaient faire les choses. Donc, c'est préventif, enfin, théoriquement, comme en réalité, la guerre avait déjà commencé, en quelque sorte, quoi. Voilà.
Mais j'essaie de comprendre un petit peu par rapport à cette logique-là. Dans le cas des États, donc, par exemple là pour le cas d'Israël, le fait d'agir de cette sorte-là, de répliquer, ou bien de répliquer, ou bien d'agir même de façon, ou bien d'attaquer, est-ce que c'est condamnable en quelque sorte ?
Mais condamnable par qui ?
Est-ce que c'est condamnable par les hommes, c'est-à-dire par nous-mêmes en tant qu'Église ? Par exemple, nous qui
regardons. Ah non, nous, en tant qu'Église, on n'a pas à se mêler des inconvertis. 1 Corinthiens 5 dit que nous ne devons pas se mêler des gens qui sont du dehors de l'Église. Nous, aujourd'hui, si on arrive à condamner les Américains, c'est nos frères que nous condamnons. On ne condamne pas les Américains païens. Nous sommes en train de discuter de nos frères et sœurs américains. Donc, puisqu'ils connaissent la parole, mais les gens du dehors, ça, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est la justice de Dieu qui s'en occupe. Donc, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 5, là, au verset 13. « Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. » Voilà. Nous, on doit s'occuper du milieu de nous. Donc, les Américains chrétiens, ils sont au milieu de nous. C'est nos frères. C'est le corps du Christ. Okay. Mais tous les restes, les gouvernements païens, tout ce qu'ils font, on peut condamner d'une manière humaine, dire « Mais tiens, avoir des avis humains. Voilà, dire, tiens, il y a quand même eu ça. C'est pourquoi j'ai essayé un peu de dire, mais oui, mais c'est une attaque préventive. C'est comme si toi, tu sais que dans une semaine, on va m'attaquer, mais moi, j'attaque l'autre déjà à l'avance pour éviter que, voilà. Donc, mais on peut en parler, en discuter d'une manière humaine, mais on ne peut pas mettre ça sur le plan de la parole, parce qu'ils sont censés être inconvertis. Oui, Simon.
Voilà, la question que je voudrais poser, est-ce qu'on peut considérer les Américains qui sont dans cette logique d'autodéfense comme nos frères, comme tu viens de le dire ?
Oui, parce que c'est des gens vraiment qui croient en Dieu. Mais, comme il s'est écrit dans Psaume 11:3, quand les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il ? Donc on peut être juste, mais dans une atmosphère où les fondements ont été dévié. Et on vit comme ça dans cette atmosphère malgré le fait qu'on soit juste. Donc c'est des gens qui aiment le Seigneur, mais ils vivent dans une atmosphère où le christianisme a adopté quelque chose qui n'est pas vrai, quoi. Voilà.
Mais le problème, c'est qu'ils ont bien connaissance, ils ont conscience en fait de ce que attend le Seigneur. Donc ils connaissent bien la parole de Dieu.
Pas les dirigeants, tu veux dire, les dirigeants.
Oui, mais même les chrétiens aussi en général.
Non, mais Dieu a fait en sorte qu'il y ait des brebis et des bergers. Mm-hmm. Il y a des choses qu'on ne peut pas reposer sur les brebis, considérant que d'elles-mêmes, elles refusent la parole. Donc, parce qu'il y a une autorité qui a été donnée aux bergers qui fait que les brebis les suivent. Et ça fait que certaines choses, Dieu jugera les bergers et non les brebis dans ce cas-là. Si on veut parler des bergers, c'est pourquoi j'ai parlé de beaucoup qui sont des infiltrés, qui amènent l'Église de Dieu dans une mauvaise direction. Mais le chrétien lui-même, Alpha, on ne peut pas considérer qu'il ne veuille pas de la vraie parole. Parce que peut-être on ne lui a jamais donné cette parole-là. Maintenant, le jour où, par exemple, on a une discussion avec un chrétien américain, on lui explique comme on vient d'expliquer là, et qu'il refuse, on dira, ah, on doute que tu sois chrétien, parce que la Bible est claire, tu refuses. Mais si quelqu'un est dans une atmosphère où son pasteur a des gardes du corps, l'Église a des gardiens armés. Quelqu'un qui naît, même l'histoire dont on parle souvent, le fait de vendre les choses. Quelqu'un qui naît dans cette atmosphère-là où les gens qui paraissent très justes, très vrais, vendent, ben, quand lui aussi commence à produire, il vendra. Donc c'est vraiment le psaume 11.3. Donc quand les fondements sont ébranlés, même quand on est bien intentionné, on est juste, mais on est dans une atmosphère où les fondements sont déséquilibrés, on est dans le déséquilibre. Donc là, la faute, c'est au berger. Donc on ne peut pas juger les brebis individuellement, quoi. À moins de les avoir individuellement dans la discussion. Si quelqu'un refuse, on dit, ah ben là, tu refuses la parole de Dieu, tu n'es pas chrétien.
D'accord. Voilà. Et tout à l'heure, au début de ton intervention, tu avais glissé le fait que on peut considérer les États-Unis comme un groupe d'États chrétiens.
Non, je n'ai pas dit ça.
Non.
J'ai dit, ça s'appelle États-Unis, c'est des États c'est qui des se sont États, réunis.
D'accord.
C'est mais, tout.
C'était pour expliquer. Entendu que c'était.
Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de pays d'accord. chrétien au monde.
D'accord.
Il n'y a okay. pas de pays chrétien.
Donc, voilà. Aucun. Voilà. Je m'en excuse. Mmh.
Merci. Ok. Donc, le deuxième point concerne la mort. Donc, on a entendu trois morts. Là, il y a Tony Scott, le réalisateur britannique, qui a fait des films avec Tom Cruise, des choses comme ça. Il s'est suicidé, il s'est jeté du haut du pont de San Francisco. Et puis, il y a Jean-Luc Delarue, le fameux, qui est mort du cancer d'estomac. Et puis, il y a Armstrong, qui est mort sur son lit. Voilà. Et la question qu'on va traiter, mais la mort, quel impact ça peut avoir dans la pensée d'un chrétien et d'un païen? Voilà, quel impact ça devrait avoir? Je pense que on va commencer par reconnaître les réalités. Les réalités, c'est quoi? C'est que dans la vie, quand les gens sont vivants, ils marquent les autres. Ils nouent des liens avec les autres et ils les marquent aussi. Et il y a une réalité, dès que quelqu'un meurt, parce qu'il a marqué les autres, parce qu'il a noué des liens avec les autres, il y a une douleur qui s'installe. C'est une réalité. Il y a une douleur, la douleur de la séparation, la douleur de l'absence et la douleur, une douleur aussi, bon, je dirais inexplicable. Voilà, la mort aussi contient une douleur inexplicable. La privation, là, ça frappe. Moi, des gens comme Jean-Luc Delarue, bon, je ne le connais pas personnellement, mais apprendre qu'il soit mort, bon, ça... Ça a fait mal, voilà, 48 ans, riche, célèbre. Ça fait mal puisque Dieu nous a donné quand même l'amour pour tous les humains. Voilà. Et donc la mort, ça fait mal. C'est une réalité, ça fait mal. Et maintenant, puisque ça fait mal, normalement, ça devrait interpeller. C'est ce qu'on veut dire. Normalement, ça devrait interpeller. Et hier, alors que j'avais déjà planifié en parler aujourd'hui, en suivant les infos, hier soir, il y a le journaliste, en suivant plutôt la radio, le journaliste qui fait un journaliste qui a une chronique qu'il entretient sur France Info, il dit, on va parler de la mort et de la gloire. Et il a parlé de ces trois morts, il a dit... Normalement, et il a commencé à interpréter, il a dit Neil Armstrong est mort. Bon, ça nous apprend que qui qu'on soit, on mourra, on peut arriver à mourir sur notre lit. Bon, il est mort à 82 ans, il n'y a pas de grands commentaires à faire. Et il a parlé de la mort de Jean-Luc Delarue. Il a dit ça nous montre la vanité de l'homme. Un journaliste, je pense que c'est un païen, mais il reconnaît, puisque c'est vrai, 48 ans, riche. Avec des lunettes, de très belles lunettes, tout ça. il a le succès. Mais tu meurs comme mourrait un mouton. Et le journaliste disait, ça nous montre la vanité de la vie. Et si même un païen est interpellé comme ça, c'est parce que Dieu, à travers la mort, a voulu interpeller tous les humains. Quand il y a la mort, normalement, chaque humain doit être interpellé. Même quand ce n'est pas un membre de famille, on doit réfléchir en ce moment-là. Ouh, mais il était là. Où est-ce qu'il est parti? Il était là bien vivant, en marchant, mais il ne bouge plus. La mort doit interpeller. Et le journaliste a dit, la mort de Jean-Luc Delarue nous fait comprendre que l'homme, c'est rien du tout. Ce n'est que vanité. Et la mort de Tony Scott, voilà son interprétation. Il a rappelé une phrase d'Albert Camus qui dit « Le suicide reste quelque chose d'inexplicable. » Mais moi, je dis « Non, le suicide est explicable. » Donc, parce que en tant que païen, il ne peut pas expliquer le suicide parce que s'enlever la vie, c'est quand même grave. Tu sautes du haut d'un pont. C'est grave. Mais Jean-Luc Delarue, non, le Tony Scott, mais il a sauté. Celui qui a fait, il a fait des grands films avec des acteurs renommés. Mais voilà, on l'a attrapé avec une tumeur inopérable. Une tumeur inopérable dans le cerveau. Et la vie n'est que vanité. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit chercher Dieu. Parce que ça peut arriver très vite. 48 ans, Jean-Luc Delarue, Tony Scott avec tous ses films, tout l'argent qu'il avait, mais on t'attrape avec une tumeur inopérable. Donc l'homme n'est rien du tout. On devrait s'humilier devant Dieu. La mort, c'est quelque chose qui doit interpeller. Que ce soit chrétien, que ce soit païen, que ce soit jeune, que ce soit vieux, la mort doit faire réfléchir. La disparition de la vie, ça doit faire réfléchir. Et quand quelqu'un ne réfléchit pas, il y a beaucoup de gens qui disent, mais oui, mais tout le monde n'a pas entendu la parole, mais oui, mais tout le monde a vu des gens mourir. Dieu parle aussi à travers la mort. Si ce journaliste, qui n'est pas officiellement chrétien en tout cas, reconnaît que le suicide est mystérieux, reconnaît que la vie n'est que vanité. Quelle justification les humains ont alors qu'ils voient des morts à gauche, à droite, partout? Aucune justification. Ça doit interpeller, ça doit faire réfléchir. Et pour le chrétien, par contre, la mort d'un chrétien doit être un sujet aussi de joie. Parce que la lutte difficile sur la terre finit. La vie sur la terre est difficile. Et quand un chrétien meurt, nous devons nous réjouir pour ce chrétien-là, dire, enfin, il va aller se reposer. Enfin, il va se reposer. Maintenant, quand un païen meurt, on doit être blessé, meurtri, dire, mais aïe, enfin, les problèmes commencent pour lui. Enfin. Maintenant, les problèmes commencent pour lui. Vous imaginez brûler éternellement quelque part. Vous savez, même la prison ici, quand on te dit 22 ans de prison, un jour, on va venir dans ta cellule dire, monsieur, c'est le jour de sortie. Même quand on dit 22 ans, 30 ans de prison, un jour tu sors. Mais imaginez un endroit dont tu ne sortiras jamais. Donc, des milliards d'années dans le feu. Ça fait très mal. Donc, quand un païen meurt, nous devons vraiment nous interroger. Nous devons nous dire, mais qu'est-ce que nous faisons quand on doit prêcher l'évangile, on doit annoncer l'évangile à tout homme. Et c'est ce que nous, quand nous entendons Jean-Luc Delarue, Michael Jackson, tous ces gens qui meurent, tu dis, aïe, 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 aïe. Ces gens-là qui avaient de l'argent, du succès, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui leur a parlé de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu le courage de les amener à croire en Dieu? Voilà. Nous devons nous interroger sur notre responsabilité quand on apprend la mort des païens. Par contre, quand on apprend la mort du chrétien, hein, il y a un verset que je veux nous laisser, psaume 115. Psaume 116, je crois, 15, verset 15. Psaume 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Donc, quand un fidèle de Dieu meurt, c'est une grande joie. Parce qu'il est accueilli en fanfare au ciel. Il est accueilli comme le héros. Quand on te donne un Oscar, tu descends de l'avion, il y a les gens, la foule qui est là, mais le chrétien, quand il meurt, eh bien, c'est comme s'il descendait de l'avion après avoir remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Tu descends, il y a la foule qui est là, mais là-bas, ça, c'est la foule des anges. Il y a des fêtes. Je crois que le chrétien lui-même, il comprend même pourquoi il fait tout ça. Un petit malheureux qui vient comme ça, oui, mais ce petit malheureux-là a été sauvé par Jésus-Christ. Et eux, ils sont heureux de voir le fruit de Jésus-Christ. Et on clôture avec Apocalypse au chapitre 14. Au chapitre 14, il est écrit ceci au verset 13. « J'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. » Dès à présent, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Amen. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Le chrétien a fait du travail sur terre, résister au péché, résister aux tentations, aimer les mauvais, aimer les autres, prêcher la bonne nouvelle, prier, voyager pour Dieu. Et enfin, quand un chrétien meurt, on se dit, ah, il va aller se reposer de ses travaux. Et ses œuvres vont le suivre. Et c'est une grande joie. Mais n'oublions pas, la mort des païens, c'est quelque chose de dur. Que ça nous interpelle pour l'évangélisation et que ça nous interpelle dans notre façon de marcher avec le Seigneur à ne pas nous accrocher à la terre. Parce que tout ça peut disparaître rapidement, très très rapidement, très rapidement. Qui pouvait croire que Jean-Luc Delarue tomberait comme ça en chute libre. Voilà, ça peut aller très très vite. Que Dieu soit béni. Nous allons exceptionnellement, je ne sais pas si c'est exceptionnellement, mais c'est la deuxième fois je crois, faire un baptême aujourd'hui, mardi, et j'appelle notre bien-aimée à nous dire pourquoi elle se fait baptiser aujourd'hui. Et si le frère Nathanaël peut s'approcher déjà.